France Inter.
Aujourd'hui, l'âge du feu raconté par
Sophie Debaune, préhistorienne, professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3 et chercheur au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité à Nanterre.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Les hoularmes fuyaient dans la nuit épouvantable, fous de souffrance et de fatigue, et tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Il élevait dans trois cages depuis l'origine de la Horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre, à l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation. Il avait franchi les fleuves et les marécages, sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard, ses dents rouges, protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes, une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure, les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur, plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths lorsqu'ils fuyaient de la cage et dévoraient les arbres. Il était mort, l'ennemi avait détruit deux cages, dans la troisième pendant la fuite on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage, il palpitait comme une bête malade et à la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle, il s'était évanoui. Extrait du roman « La guerre du feu » de Joseph-Henri Rony, publié en 1911.
La chose est arrivée par hasard, un matin où l'on allait chasser.
Coty !
Ça nous a étonnés car le sage est d'habitude très prudent. Il a été le premier à comprendre. Brrr ! On avait vaincu notre peur et il dansait devant nous. On ne se doutait pas alors de toutes les conséquences de cette découverte, de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec du feu. Brrr !
L'Odyssée de l'espèce 2001, Jacques Malaterre. Bonjour Sophie Debaune.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On poursuit avec vous cette série de la Terre au carré sur les âges qui ont marqué l'histoire de l'humanité après l'âge de la pierre. Voici donc l'âge du feu. Je lisais donc quelques extraits de ce roman La guerre du feu, publié donc en 1911 par Joseph-Henri Rony, qui invente le roman préhistorique à l'époque, ou ce qu'il appelait lui-même le roman des âges farouches. Est-ce que c'est un texte qui a compté dans l'histoire de votre discipline ou pas?
Je pense que la plupart des préhistoriens ont dû le lire.
Ouais, pas vous ?
Si, j'ai dû le lire il y a très longtemps. Par contre, je me souviens beaucoup mieux du film de Jean-Jacques Haneau, qui était un très beau film, bon, malgré des erreurs. Bon, tous les préhistoriens ont noté, bien entendu, des erreurs, mais c'était quand même un très beau film.
Ouais, qui nous renvoie à 1981. On a regardé la date tous les deux tout à l'heure pour s'en souvenir. On parle souvent du feu comme d'une découverte décisive pour l'humanité, mais est-ce qu'on sait vraiment depuis combien de temps les humains l'utilisent et est-ce que les préhistoriens sont d'accord entre eux sur cette question ?
Et non, c'est très controversé. Très controversé. Donc les premières traces de feu dans des sites archéologiques, c'est en Afrique de l'Est. Autour de 1,4 million d'années, on a des sites au Kenya et en Éthiopie. En fait, trois sites, c'est pas énormément.
Oui.
Où on a des roches calcinées, quelques traces de sédiments aussi qui ont subi une chauffe. Ça, on peut le savoir en faisant des analyses. Mais on ne sait pas si c'est le fait de l'homme, ou bien si ce sont des incendies naturels. Ensuite, il faut attendre 1 million d'années. Et là, on a un site en Afrique du Sud, la grotte de Swartkrans, dans laquelle on a retrouvé 270 os,
absolument,
fragments d'os.
Qu'est-ce que vous êtes vénal quand même, les préhistoriens hein.
Des fragments d'eau ou des os, donc, calcinés. Mmh. Et on s'est posé la question aussi de savoir est-ce que c'était le fait de l'homme ou pas, parce que c'est un peu partout disséminé, mais il n'y a rien d'autre qui a brûlé, juste ces os.
Ouais.
Donc ça peut être des animaux qui ont brûlé dans un incendie naturel. Donc là encore, On ne sait pas. Mmh. Après, il faut attendre 800 000 ans, 750 000 ans, on a deux autres sites. On a un site dans le sud de l'Espagne, la Cueva Negra del Estrecho del Río Quipar.
À Blas Bien.
Voilà. Muchas gracias. Et donc, dans ce site, on a retrouvé aussi des éléments brûlés. Mais là aussi, la question se pose, est-ce naturel ou pas?
Bon.
Et puis, encore un autre site, c'est le site, alors, est-ce que je vais bien le prononcer, de Gesher Benot Yaakov, qui est en Israël. Et là, on a retrouvé des graines de raisin et d'orge sauvage calcinées, des petits morceaux, des petits éclats de silex, je ne sais plus trop quoi, enfin deux, trois autres choses, brûlées, calcinées.
Mais là encore, est-ce de l'humain ?
La question se pose, certains sont persuadés que oui, c'est d'origine anthropique.
Ouais.
Donc la question se pose.
Mais comment on peut trancher pour le savoir justement ou pas ?
Il faudrait que ce soit concentré à un endroit donné, mais là, il n'y a pas encore de foyer à ces époques-là. Mmh. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de concentration, où c'est un peu disséminé, c'est très difficile de trancher. Par contre, à partir de 450 000 ans, là, on commence à avoir justement des regroupements, des cuvettes avec dedans des éléments brûlés, des cendres, des silex, des fragments d'os. Et donc, là, on peut se dire qu'il y a des foyers. Donc ça, c'est 450 000. Le plus vieux pour la France, c'est le site de Ménez-Dregan, qui est dans le Finistère.
En Bretagne, oui.
Oui, c'est ça, en Bretagne, dans lequel on a retrouvé des foyers. Et donc là, 465 000 dans la couche la plus ancienne. Et après, le site a été réoccupé de 350 000 à 200 000. Mmh. Et là, on a toute une succession de foyers construits. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens revenaient régulièrement à cet endroit et ils se réinstallaient plus ou moins au même endroit à chaque fois. Donc le foyer bouge, mais très peu. Il est à peu près toujours au même endroit.
Donc si on veut mettre les préhistoriens à peu près d'accord entre eux, on va situer les choses vers moins 450 000 pour dire
à
que
peu près,
et les humains avaient une maîtrise du feu à ce moment-là.
Alors, en tout cas, ils l'utilisaient. On ne sait pas s'ils savaient le produire. Mm-hmm. Donc, mais il n'y a pas qu'en Bretagne. Hein. On en trouve à peu près à la même époque à Choukoutien, donc il y a un site qui n'est pas loin de Pékin, en Chine. On en trouve en Hongrie, à Vertézolos, et dans plusieurs autres sites, un petit peu partout, ce qui veut dire que c'était quand même rare, c'était exceptionnel, parce qu'on a des centaines de sites, hein, on connaît beaucoup de sites, donc la présence du feu est quand même exceptionnelle, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas une invention qui a été faite à un seul endroit. C'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs endroits, peut-être sans lendemain ensuite, parce qu'il y a des sites où on voit des traces d'un foyer et puis plus rien après pendant des dizaines de milliers d'années. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient réussi à capturer le feu et ensuite ils l'ont perdu pendant des dizaines de milliers d'années? Bon, ça, on ne sait pas. On peut faire des hypothèses, bien sûr. Ouais, mais...
Parce qu'il fallait non seulement pouvoir l'apprécier, mais l'entretenir ensuite.
Et c'est ça, le garder, le conserver. Ouais. C'est ça.
Est-ce qu'on peut imaginer comment nos très lointains ancêtres ont eu pour la toute première fois un contact avec le feu, avant même de le chercher à le produire eux-mêmes?
Là, c'est difficile. On peut imaginer que les premiers hominines qui vivaient en Afrique de l'Est vivaient dans un paysage de savane où les feux devaient être fréquents. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'utilisaient. Ils devaient en avoir sûrement peur, hein, comme la plupart des animaux, puisque c'est des animaux. Hein.
Ouais. Bon.
Et donc, oui, on peut supposer qu'ils ont vu des feux produits par tout simplement des incendies naturels, par la foudre.
Mais ils ont pu en faire un usage opportuniste quand même, ou pas, de ces feux-là?
Alors, c'est possible. On sait que ça se fait chez les animaux. Alors, c'est très rare, bien sûr. La plupart du temps, les animaux ont peur du feu.
Ouais.
C'est même souvent, on dit que c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. En réalité, il existe quelques exemples, assez rares, mais il existe quelques exemples d'animaux qui n'ont pas peur du feu.
Lesquels?
Alors, par exemple, on a repéré en Afrique du Sud des petits singes velvètes qui se positionnent autour des incendies et qui vont chercher des animaux qui ont brûlé dans l'incendie juste après.
Ouais.
Une fois que l'incendie s'est calmé, et ils vont chercher l'animal pour manger de la viande cuite.
C'est ça, donc ils aiment la viande cuite, c'est incroyable.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur.
Ouais, ouais.
Et on a aussi le cas des chimpanzés de Fongoli au Sénégal. Et là aussi, on a observé la même chose.
Oui.
Il ne semble pas avoir peur du feu. Et ils privilégient donc, enfin, quand ils peuvent, ils attendent, ils observent pour voir dans quelle direction se
dirige. Mais ça reste rare quand même. Hein.
Ah, ça reste exceptionnel. Et alors, le cas le plus étonnant, le plus incroyable, ce sont des milans noirs en Australie, donc les oiseaux.
Oui.
Qui vont chercher donc les petits insectes ou les petits rongeurs qu'ils consomment dans les braises. Et même, on en a observé qu'ils vont chercher des tisons, ils les prennent dans le bec, ils vont au-delà de la ligne de l'incendie, et ils jettent le tison pour propager l'incendie et pour éventuellement continuer leur petit festin.
Donc ce sont les milans pyromanes quasiment, là, ceux-là.
Quasiment, hein. c'est incroyable. Mais enfin, ça reste très exceptionnel quand même.
Sophie Debaune, puisque vous nous parliez de la Bretagne, on va écouter l'archéologue, la paléo-archéologue Anne-Lise Ravon nous parler du premier barbecue breton. C'était sur France Télévisions en 2021.
On a retrouvé un foyer, donc un feu entretenu par l'homme, et on a retrouvé une surface de sédiments brûlés avec ces petits charbons de bois, parfois de plus grande dimension, et aussi des petits éclats de silex brûlés et quelques restes d'os, ce qui veut dire que charbon de bois plus os brûlé, barbecue. On a le premier barbecue de Bretagne ici il y a 465 000 ans.
C'est chic quand même, non ?
Oui.
Premier barbecue naturel donc en Bretagne. Il y a d'autres sites importants français pour le feu ou pas ?
Après, il y a des sites dans le sud de la France. Il y a Terra Amata,
qui est fouillé par Henri Lemblay. On le cite souvent, ce site. Pourquoi, justement ?
Oui. Alors, Terra Amata, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un foyer. Et à côté, ils ont fait une sorte de petite muret avec des pierres empilées. Et on se demande si ce n'est pas pour protéger le feu de l'air marin, puisqu'on est en bordure de mer.
C'est et super. Là, on est il y a 400 000 ans aussi,
là,
à peu près.
Alors, de mémoire, je crois que c'est 380 000, je crois.
Ouais. Bon. Et comment les préhistoriens procèdent pour concrètement essayer de dater, justement, avec précision, ces vestiges de feu ? Est-ce que ce sont des méthodes fiables sur des périodes aussi reculées ?
Alors, on a la méthode de datation de la thermoluminescence, qui consiste à dater la date de la dernière chauffe. Et c'est très utilisé, d'ailleurs, pour les céramiques, pour les fours, pour les périodes plus récentes. Mais c'est utilisé pour les périodes très anciennes aussi.
Donc, ça consiste en quoi, exactement ?
Ou alors là, moi, je ne suis pas physicienne. Ouais. Je ne peux pas vous expliquer le détail.
Mais je sais qu'on rechauffe.
Ah, c'est ça. Et ça permet de calculer la température et la date de la dernière chauffe.
Ouais.
Comme si on me remettait les compteurs à zéro. Mais je suis sûre que Hélène Valadas, la spécialiste de la thermoluminescence, doit bondir sur son siège en m'écoutant. Ouais. Parce que comme je ne suis pas physicienne, je ne peux pas expliquer très précisément. Ouais. Mais le principe, c'est ça. On rechauffe et on va pouvoir calculer la distance entre la chauffe que l'on fait et la chauffe.
Alors, quand on est juste archéologue et pas physicien, comment on fait justement pour essayer de réunir des indices sur les premiers foyers précisément identifiables ?
Ah, voilà, on conserve évidemment au moment de la fouille, on conserve précieusement tous les indices, les charbons de bois, les eaux calcinées, etc. Et puis souvent, d'ailleurs, les dateurs, comme on les appelle, les spécialistes, viennent sur le site faire directement des prélèvements. Dans le cas des sédiments, par exemple, ils viennent sur place faire des prélèvements.
Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prouver que le feu était produit, pas simplement récolté comme ça dans la nature ? Et est-ce que cette distinction est vraiment importante d'un point de vue préhistorique, en fait ?
Moi, je considère que du point de vue cognitif, c'est un peu la même chose. Mmh. Le fait qu'on utilise le feu ou qu'on sache le produire, c'est une différence technique. Mais du point de vue cognitif, c'est à peu près pareil.
En fait. Bon, vous trouvez ?
Pour moi, oui.
Ah ouais ?
Mais après, c'est l'opinion personnelle, ça n'engage que moi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites quand même, parce qu'on va en discuter tout à l'heure sur les techniques utilisées, mais qui font quand même appel à des ressources intellectuelles particulières, non, quand même ?
Oui, dans la mesure où il faut anticiper, il faut planifier, bien sûr. Il y a plusieurs étapes.
Et maîtriser, quand même.
Il faut préparer son matériel, ses outils.
Ouais, et la maîtrise.
Par contre, si on regarde, par exemple, les Australopithèques, ils avaient les moyens techniques. S'ils avaient voulu, ils auraient pu produire du feu, techniquement. Ils avaient, c'est la percussion ou la friction. Mais on va en reparler.
On va y revenir, effectivement. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait, alors, les Australopithèques, il y a 3 millions d'années ?
Peut-être y a-t-il un saut cognitif qu'ils n'ont pas franchi.
C'est ça. Donc, quand même, ça joue.
Ou bien, ils n'en avaient pas besoin. Il y a ça aussi. On n'est pas obligé d'inventer quelque chose. L'invention nous paraît à nous absolument indispensable parce qu'on a toujours vécu avec l'idée du feu et il y a eu tellement d'applications avec le feu. Mais en fait, on peut très bien vivre sans le feu.
C'est ça. Il y a eu des humanités avant le feu.
Rétrospectivement, on a l'impression que c'est indispensable, mais en réalité, ça ne l'était pas forcément.
Pourquoi nos ancêtres ont pris la peine d'apprivoiser le feu et comment est-ce que ça a transformé en profondeur la façon de vivre justement de nos ancêtres et de nous aussi aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer avec vous dans un instant. Sophie Debaune, et puis vous allez répondre aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr. A tout de suite.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
La pire des calamités pour l'homme primitif était de ne pas avoir de feu. Le feu, cet étrange élément qui cuisait ses aliments, chauffait sa caverne et le maintenait en vie. Si la flamme ne jaillissait pas, la mort pour tous était inéluctable.
Extrait de l'histoire du monde de Mel Brooks en 1981, tiens justement l'année de la guerre du feu de Jean-Jacques Hano. On parle de l'âge du feu avec vous, Sophie Debaune. C'est le deuxième épisode de notre série sur tous ces âges qui ont transformé l'histoire de l'humanité. Alors ben justement, on dit souvent que le feu a tout changé pour les humains, mais concrètement, quels sont les premiers avantages pratiques que le feu a apporté au groupe humain, Sophie Debaune? Est-ce que ces avantages étaient vraiment décisifs pour leur survie?
Déjà la cuisson. La cuisson des aliments. Donc là, on suppose même, ou certains chercheurs en tout cas font l'hypothèse que ça a pu favoriser l'évolution vers les hommes, vers les homo sapiens, Les premiers homo, les premiers représentants du genre homo qui ont utilisé le feu avaient une mâchoire beaucoup plus en avant et des dents beaucoup plus importantes. Donc le fait de cuire les aliments fait que ça a pu donc entraîner une réduction de la taille des dents et de la taille de la mâchoire, et du coup provoquer ou favoriser un développement du cerveau.
Ce qui est pas rien quand même. Passer du cru au cuit.
Voilà, c'est ça. La cuisson, ça permet aussi d'éliminer les parasitoses. Ça permet d'aider à mâcher les fibres végétales.
Ouais.
Surtout si on mange des racines ou autre. Donc ça a beaucoup d'avantages, disons, pour le corps, le développement du corps.
Est-ce que ça peut allonger l'espérance de vie ou pas de ses ancêtres?
Je ne sais, crois pas. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu des travaux là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a dû favoriser l'évolution.
Est-ce qu'on peut imaginer que dès qu'il y a eu maîtrise du feu, il y a eu passage du cru au cuit, justement, ou pas?
Ça, on peut pas trop savoir, mais ce que nous, on voit, ce qu'on voit du point de vue archéologique, les témoins qu'on voit, ça témoigne de la cuisson. Mmh. Puisque ce qu'on retrouve, ce sont des os calcinés. Mais il est possible qu'il y ait eu un usage du feu antérieur, sans cuisson. Et ça, on ne peut pas le voir archéologiquement. On n'a pas de témoins.
D'autres usages, Sophie Debaune?
Alors, d'autres usages, le chauffage.
Là aussi, c'est pas rien.
Alors, le chauffage en période glaciaire, ça peut être bien.
Ça
peut être sympathique.
Ah ouais.
Il faut relativiser, parce qu'en fait, il y a des populations qui vivent dans des environnements très froids, qui sont très bien adaptés. Et même nous, quand on voit dans notre propre société, maintenant, on est tous très frileux, on met le chauffage à 20 dans la maison. En réalité, si on regarde au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas de chauffage. Donc, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Et ils devaient avoir... peut-être froid, mais peut-être qu'ils étaient bien adaptés aussi.
Que le corps avait des capacités que nous avons moins aujourd'hui.
Des capacités, bien sûr.
Et alors, ils se chauffaient de quelle façon alors? En fait, c'était dans quel cadre?
Alors, allume un feu, on se met autour, tout simplement.
Mais à l'extérieur?
Alors, ça dépend. On a parfois des foyers que l'on retrouve à l'intérieur des huttes, et souvent, c'est à moitié dedans, à moitié dehors, juste à la frontière.
Ouais.
Quand ils s'installaient sous un abri sous roche, souvent ils faisaient leur feu, pas forcément à l'intérieur, mais un peu en limite.
Oui.
Et pour les huttes, c'est souvent aussi en limite.
Mais ça aurait été même très dangereux de faire du feu à l'intérieur, non? En raison des émanations de
si
gaz toxiques.
Si on a des huttes avec une charpente en bois, c'est un peu dangereux.
Même chose pour les grottes.
Oui.
On peut vite
Alors les grottes, vous savez bien sûr qu'ils ne vivaient pas vraiment dans les grottes. Ils vivaient dans les entrées de grottes,
c'est ça.
Sous les abris sous roche. On a très peu d'exemples de gens qui vivaient au fin fond des grottes.
En revanche, les dessins le montrent. Il y a eu un usage du feu aussi par l'éclairage.
Voilà. Alors ça, c'est le troisième usage.
Et ça, c'est votre sujet
aussi,
Sophie Debaune.
Et c'est mon petit sujet de prédilection, parce que j'avais fait ma thèse là-dessus il y a un certain temps.
Allons-y sur l'éclairage.
Alors allons-y. Ouais. Si on va dans les grottes, évidemment, il faut s'éclairer. Donc il y a trois moyens d'éclairage. Il y a allumer des feux à l'intérieur. Ce qui présente un avantage, c'est d'avoir des relais, mais c'est fixe. Avoir des torches. Donc les torches sont très rarement conservées. Ça, c'est l'inconvénient pour l'archéologue.
Parce que c'est du végétal à la base, j'imagine.
Le bois se conserve très mal. Alors, parfois, ce qu'on peut trouver sur les parois de certaines grottes, ce sont des mouchages de torches. C'est-à-dire que ça torche, de temps en temps, il faut la nettoyer, il faut l'essuyer.
C'est ça. Et on a des traces.
Frotte, voilà,
on la trace de la suie, en fait, c'est ça?
C'est ça. Alors, ouais. Ce sont des traces de charbon sur le mur, qui sont intéressantes à double titre. D'abord, ça prouve qu'ils ont utilisé des torches.
Ouais.
Et deuxième avantage, c'est qu'on peut prélever le charbon et faire des datations. C'est comme ça qu'à la grotte Chauvet, on a pu faire beaucoup de datations. Parce qu'on a beaucoup de... On a des dessins qui ont été faits au charbon.
C'est ça.
Mais on a aussi beaucoup de mouchages de torches. Et on a retrouvé des foyers sur le sol, hein, aussi.
Mais là, c'est une histoire jeune, finalement, Lascaux. Par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, 450 000 ans, 400 000 ans, etc.
Ah oui, bien sûr. Hein, bah oui, les grandes ornées, là, on en a à partir de 35-40
000
ans.
C'est ça. Mais la maîtrise de l'éclairage, elle était antérieure à ça.
C'est probablement plus ancien, parce qu'en fait, on a quand même quelques éléments qui montrent que le Néandertalien fréquentait les grottes, pas souvent. Hein.
Ouais.
On a deux, trois exemples sur des centaines de sites. Donc ça veut dire que c'était exceptionnel, mais on a quelques exemples quand même.
Donc ils ont pu fabriquer eux-mêmes des torches.
Ils ont pu fabriquer des torches. Parce que le troisième mode d'éclairage, ce sont les lampes en pierre, hein, qui sont donc, c'est un peu le principe des calèles ou le principe des lampes à huile romaines. On met un combustible. Dans un combustible animal, en l'occurrence, puisqu'il n'y avait évidemment pas d'huile végétale, et puis une mèche, voilà, qui est faite de lichen, de mousse, de genévrier ou autre. Donc c'est vraiment le principe de la lampe à huile, hein, sauf qu'il n'y avait pas d'huile végétale, puisqu'il n'y avait pas d'agriculture et pas d'huile. Et pourquoi je disais ça? Et oui, et donc on n'a pas retrouvé de lampe, que je sache, au paléolithique moyen, donc à l'époque des Néandertaliens. Les premières lampes, c'est autour de 35-40 000 ans.
Ah oui, donc c'est jeune.
Avec Homo sapiens.
Plutôt récent, ouais. Ouais. Et alors, les torches dont vous parliez, Sophie Daubonne, hein, elles avaient une autonomie de combien de temps? Est-ce que vous le savez, ça ou pas?
Alors, ça dépend du bois, ça dépend. Mais par contre, ce que je peux vous dire, bon, je pense que ça peut durer une heure ou deux. Hein. Après,
ah, pas mal.
Testé. Oui, j'ai pas testé.
Ouais.
Mais pour les petites lampes à graisse, un tout petit morceau de quelques, je sais pas, de 15 grammes, 20 grammes de graisse, ça peut brûler une heure ou deux aussi. Hein. Donc il suffit d'avoir dans sa poche un petit peu de graisse et puis c'est parti.
Bien sûr. Et alors ces lampes, on en a retrouvé beaucoup ou pas?
Alors, à l'époque où j'ai fait ma thèse, on en a, disons qu'il y en avait 400 qui avaient été publiés ou mentionnés. Mais en réalité, en les examinant, j'en ai trouvé beaucoup moins. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un petit récipient pour dire c'est une lampe.
Ouais.
Il faut avoir des traces à l'intérieur, des traces indiquant qu'il y a eu un feu qui a été allumé dessus ou dedans. Je dis dessus parce que parfois certaines sont plates, mais on a bien la trace d'un petit foyer qui a été allumé sur une partie de la plaquette. Donc dessus ou dedans quand c'est une cuvette.
Ouais.
Et là, si on n'a pas de traces de charbon ou de rubéfaction, c'est-à-dire la pierre qui a chauffé et qui a rougi, on ne peut pas affirmer qu'il s'agisse de lampes.
Ouais.
Mais vous voyez que même si c'était 400, ça reste assez peu finalement pour une période qui a duré des milliers d'années.
C'est vrai.
Et on a 350 à 400 sites d'art pariétal. Donc ça veut dire qu'ils avaient forcément des torches ou des lampes qui n'ont pas été identifiées. Parce que l'intérêt pour ces types d'outils est relativement récent. Au début du XXe siècle, quand on trouvait une grotte, tout ce qui n'était pas taillé, s'il est taillé, ça partait à la haute des blés. Moi, j'ai réétudié d'ailleurs des collections dans les musées, dans les réserves, des choses qui n'avaient pas du tout été publiées. Et en fouillant dans les réserves, j'ai trouvé des lampes.
Ouais.
Donc ça... Les gens n'avaient pas fait attention. C'était souvent c'est assez fruste, c'est pas façonné, donc les gens collaient ça au déblais. Ou quand ils l'ont mis dans les réserves, quand ils l'ont quand même gardé, c'est bien, c'est une chance.
Sophie Daubonne, quand on est une femme ou un homme préhistorique et qu'on a envie de s'aventurer dans une grotte, justement, il faut être un peu aventurier quand même sur les bords. Hein.
Certainement.
Il faut avoir confiance aussi en sa lampe, parce que le danger, c'est de tout d'un coup se retrouver dans l'obscurité, être incapable de revenir en arrière.
Et c'est pour ça qu'ils avaient
une bonne connaissance quand même.
Voilà, ils avaient probablement des relais. Et il partait jamais seul, à mon avis, et il partait avec plusieurs moyens d'éclairage.
Ouais.
D'ailleurs, souvent, on en trouve plusieurs. Quand on les retrouve, on en trouve plusieurs. À Lascaux, c'est assez étonnant. On a retrouvé des espèces de petites plaquettes qui avaient servi de lampions, et empilées le long des parois.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'ils les ont laissées en sortant, ils les ont empilées, peut-être pour une visite ultérieure, qu'ils n'ont jamais faite.
Donc la cuisson, hein. Pour l'usage, l'éclairage, le chauffage,
oui.
Et puis, il y a un autre usage qui est tout simplement celui de pouvoir se retrouver.
La vie sociale.
Oui, c'est ça.
La vie sociale, très important.
Ça a compté probablement aussi beaucoup.
Très certainement.
Se retrouver au coin du feu.
Parce qu'on voit même encore aujourd'hui dans les sociétés non industrielles, il n'y a pas de chauffage, les gens se réunissent le soir autour du feu. J'ai vu ça chez les Touaregs, le soir, on se met autour du feu et on discute. Et là, à ce moment-là, il y a les interactions langagières, il peut y avoir d'autres échanges, des chants, des récits.
Qu'est-ce qui se racontait, à votre avis, autour du feu ?
Mais c'est très important, et même ça l'est resté très longtemps. Quand on voit qu'avant, il n'y a pas si longtemps, on parlait des feux, le nombre de feux dans les villages et dans les hameaux. On comptait les familles par feu. Et encore aujourd'hui, on parle du foyer familial.
C'est vrai.
Donc c'est quand même, ça veut dire que c'est resté une notion très très importante.
Est-ce qu'il y avait aussi une dimension plus symbolique ou spirituelle autour du feu ?
Alors là, je n'en sais rien. Je préfère dire que
c'est très spéculatif.
On n'en sait rien. Ça reste très spéculatif là. Ouais.
Mais on peut imaginer que cette force-là représentait peut-être quelque chose de particulier.
Peut-être.
On ne saura jamais.
Après, si on veut vraiment trouver des explications, des choses dans ce domaine-là, on est obligé de faire de l'interprétation par rapport à des sociétés qui existent. Par exemple, on sait que chez les Inuits, c'est la femme, la gardienne du feu. Ce sont pas des foyers au sens archéologique, au sens préhistorique. Ce sont de grandes lampes en stéatite, et c'est la femme qui est gardienne de la lampe. Et d'ailleurs, quand la femme meurt, on l'enterre avec une lampe ou avec sa lampe. Chaque femme a sa lampe. Donc
Sophie
là,
de
ça
Bonne,
a une dimension sociale et spirituelle.
Il y a un petit détail dont on n'a pas parlé, c'est comment on fabrique concrètement du feu. On va en discuter ensemble dans un instant. Et puis vous dialoguerez également avec les auditeurs et les auditrices qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Également vos messages vocaux si vous allez sur l'application Radio France pour vous entendre directement. Et on aime bien ça.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Une étape importante, c'est bien évidemment d'allumer le feu. Et ça, c'est une technique vraiment très poussée. Explique-nous comment ça fonctionne.
Il y a un silex et puis une marcassite. Ça provoque des étincelles, mais des étincelles qui peuvent permettre d'allumer un champignon qu'on appelle l'amadou.
Il y a quelque chose de magique à te regarder faire et ça marche. C'est ça qui est génial.
Voilà un extrait de reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine en 2022 avec la voix du journaliste Éric Perrin et le préhistorien Serge Maury. Sophie Debaune, vous qui êtes notre invitée pour parler de l'âge du feu cet après-midi dans la Terre au Carré. Évidemment, la question de comment on arrive à fabriquer du feu, elle est quand même assez essentielle et centrale dans cette histoire. Les techniques, il y en a de très différentes ou pas ? Ou est-ce que ça reste assez basique ?
Il y a deux famille de techniques différentes. Ouais. Il y a la technique par percussion dont parlait Serge Maury.
Ouais.
Donc avec un silex, alors deux silex, ça marche pas. Il y a des essais qui ont été faits, ça marche pas.
Partie des mythes justement,
oui,
non
ça, un peu, c'est un mythe qu'il faut casser.
Ça ne
fonctionne pas.
Jamais.
Bon, jamais.
D'accord.
Par contre, il faut un nodule de pyrite de fer. Donc ça peut être de la marcassite, comme il a cité, et ça peut être de la pyrite, hein, simplement. Donc, on tape les uns l'un contre l'autre, on tape son silex sur la pyrite, et ça va provoquer des étincelles, et là on met ça en contact avec quelque chose de très inflammable, comme de l'amadou, dont il a parlé, qui est une sorte de champignon. Ça peut être des brindilles, ça peut être du lichen, de la mousse.
Tout ce qui prend vite, en fait, c'est ça ?
Tout ce qui peut provoquer une petite flamme,
rapidement.
Et après on souffle, hop, vite, et après on l'entretient. Dès qu'on a un petit feu, on l'entretient, et c'est parti.
Ouais.
Et alors, est-ce que, du point de vue archéologique, on a des indices ? Alors, déjà, il faut savoir que la pyrite, c'est très rare. D'abord, dans la nature, il y en a, c'est pas si fréquent. Et on en trouve très peu dans les sites paléolithiques. Mmh. Parce qu'à partir du néolithique, c'est assez fréquent. On a peut-être 4-5 sites qui en ont livré, dont une découverte qui a été publiée il n'y a pas longtemps sur le site de Paran, dans le Sussex, en Angleterre. Ils ont retrouvé deux nodules de fer, de pyrite, et avec des traces de percussion dessus. Ce qui veut dire que... Et c'est 415 000 ans. Donc ça veut dire
que... Ah oui, c'est ancien.
Oui,
quand même, là,
ça veut dire qu'à cette époque-là, dans ce site précis, à cet endroit-là...
On maîtrisait
l'allumage du feu, probablement.
Ouais.
Après, on en a retrouvé d'autres, mais beaucoup plus récents, au paléolithique supérieur. Donc, je rappelle, entre 40 000 et 10 000. Hein.
Donc,
et
toujours là, avec cette technique de frottage, en fait, c'est
alors,
ça.
Alors, justement, le problème, c'est qu'il y a plusieurs sites dans lesquels on a retrouvé des pyrites de fer, mais sans sans trace.
Oui.
Donc, est-ce qu'ils les ont ramassés parce qu'ils trouvaient ça joli, comme un beau galet, bon, ou est-ce qu'ils ont vraiment utilisé ça? Il n'y a qu'un seul cas, dans un site qui s'appelle le Trou du Chaleux, qui est en Belgique, où on a retrouvé une nodule de pyrite avec des traces de rainurage, et qui ont pu être provoquées par la frappe avec un silex. Et on a ce même type de traces sur des pyrites ethnographiques, observées en contexte ethnographique. Donc, c'est un petit indice.
Alors, l'autre technique, c'est quoi? Alors,
voilà ce que j'allais venir. La deuxième technique, c'est par friction. C'est-à-dire avec une petite tablette en bois et une baguette. Donc, ça peut être soit une friction d'avant en arrière,
ouais,
dans une rainure, soit une friction par rotation. C'est-à-dire qu'on a une petite baguette à section circulaire qu'on tient verticale dans ses doigts, entre ses mains, et qu'on frotte dans une plaquette dans laquelle on a un petit trou. Et c'est pareil, ça va provoquer de la chaleur, de la sueur chaude qui va se dégager. Et là aussi, on va approcher son combustible, et dès qu'il va y avoir assez de chaleur, hop, on va essayer de faire prendre le feu.
Ouais.
Alors c'est la plus répandue
oui,
dans le monde.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on voit encore des populations même qui l'utilisent encore aujourd'hui.
Qui l'utilisent encore.
Ouais.
Ça c'est vraiment... D'ailleurs, il est probable que c'était quand même la méthode la plus utilisée, parce que sinon on aurait retrouvé beaucoup plus de pyrite.
Ouais.
Donc ça c'est un indice négatif, mais un indice quand même, qui montre probablement que c'était fort utilisé. Alors là, on a retrouvé très peu d'indices archéologiques.
Parce que c'est du bois, justement, c'est ça?
Parce que c'est du bois, ouais. Parce que ça se conserve pas. On a retrouvé à Kalambo Falls, donc c'est en Afrique, dans un site, on a retrouvé un petit fragment de bois calciné avec des traces de rainurage, qui pourrait être donc un fragment d'allume-feu. Et puis, on a retrouvé à Krapina, qui est en Croatie, un site plus récent. Et là, on a retrouvé des petites baguettes avec des traces de calcination.
Donc,
à l'extrémité.
Consumées.
Et là, ça pourrait être le forêt, en fait, qui a servi à allumer le feu.
Et là,
c'est une hypothèse.
C'est quoi la datation?
Alors,
là,
attendez, pour Krapina, c'est 130 000 ans, quand même.
Pas mal,
donc,
pas
c'est
mal.
Néandertal.
Ouais, exactement.
C'est Néandertal. Ouais.
Et alors, on imagine l'émotion, peut-être, du premier humain ou de la première humaine qui a réussi, tout d'un coup, à faire jaillir le feu. Enfin,
voilà.
Ça a dû être quelque chose, quand même, d'assez incroyable, non?
Alors, peut-être que le premier n'a pas réussi et qu'il l'a volé. Entre guillemets.
Oui, mais le premier
comme le Milan noir d'Australie.
Mais sauf que le premier qui a réussi justement.
Alors le premier qui a réussi,
ça.
Alors ça on ne saura jamais.
Ouais.
Mais effectivement, comme toute découverte, hein, comme toute invention, c'est certainement.
On n'en connaîtra jamais l'auteur ou l'autrice.
Oui, comme toutes les inventions.
Le feu, il a servi à fabriquer, à améliorer des outils, et ça, c'est arrivé assez vite ou pas? Ou ça a d'abord servi justement pour se chauffer, pour se nourrir, tout ce qu'on disait tout à l'heure, pour s'éclairer?
Ça, c'est difficile à dire, parce que, alors, quand même, on a des indices, mais c'est très ponctuel. Et alors, il y a une chose, quand même, qu'il faut préciser, c'est que, une fois que le feu a été inventé quelque part, ça n'a pas forcément été généralisé.
Ouais.
Parce que, on voit bien, au paléolithique inférieur, moyen, on a des tonnes de sites. On a des centaines de sites.
Où il n'y a pas de feu,
il n'y a pas de feu.
Il n'y a pas de traces de feu.
Donc, c'est vrai que ça ne s'est pas généralisé. Comme toutes les inventions, d'ailleurs. On parle toujours de l'écriture, l'invention de l'écriture, qui arrive avec l'histoire. Et la préhistoire, c'est justement sans écriture.
C'est ça.
Mais en réalité, il faut avoir à l'esprit que quand l'écriture a été inventée, il n'y avait que quelques privilégiés. Quelques érudits, quelques scribes qui dominaient l'écriture. Il a fallu attendre des siècles et des siècles avant que l'écriture se généralise.
Donc,
et le feu, il est tout à fait possible, ça a été la même chose.
Justement, Sophie Lebonne, ça veut dire que ça ne représente pas une rupture radicale dans l'histoire de notre humanité?
Probablement pas.
Ouais.
Probablement
c'est très décevant, hein. Franchement,
c'est assez décevant.
Si c'est la conclusion de cette émission, ça ne valait pas le coup de se fatiguer pendant trois quarts d'heure. C'est pour nous dire ça,
non,
finalement.
Non, mais après, il y a eu quand même des applications extraordinaires. Il y a eu beaucoup d'applications, hein, quand même. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à se généraliser. Et ce n'est qu'au paléolithique supérieur où là, on trouve des foyers dans tous les sites. Il n'y a pas de problème. Et des foyers construits, bordés de pierres, parfois dallés, et probablement aussi des foyers spécialisés.
Est-ce que le feu, ça implique nécessairement un certain niveau d'intelligence ou de capacité cognitive? Je voudrais qu'on y revienne un petit instant. Ou est-ce que des êtres au cerveau encore peu développés pouvaient en faire usage?
Alors, ça, on a vu qu'il y a des animaux qui l'utilisent, hein, pour la cuisson. Qui récupère.
Mais il y a plein d'animaux intelligents.
ce sont des animaux intelligents. Il y a des animaux très intelligents. Les milans, d'ailleurs, en particulier, les corvidés, sont connus pour être très intelligents. Hein. Oui, oui.
Et est-ce que ça a joué justement dans le développement aussi cognitif ou pas ? Dans quel sens ça va, en fait, cette histoire ?
C'est probable, dans la mesure où, justement, on a parlé tout à l'heure des implications sociales, ça a favorisé les échanges.
Ouais.
Et donc, on peut supposer que les échanges entre individus ont favorisé les échanges d'idées. Mais là, c'est un peu spéculatif, mais c'est probable.
Ouais. Mais le feu, il a quand même fait ses preuves, parce qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'il soit réellement remplacé dans les activités centrales de l'humanité. C'est-à-dire, une fois que charbon est arrivé, c'était une autre histoire.
Mais là, les applications, on n'a pas parlé tout à l'heure des applications techniques au paléolithique, comme par exemple la chauffe des pierres pour les tailler.
Ouais.
Donc ça, on a un exemple en Afrique du Sud, dans un site qui s'appelle Pinnacle Point. On a retrouvé des pierres taillées en silcrète, c'est une roche locale, donc datées de 164 000 ans, qui ont été chauffées, parce que ça facilite leur taille. Après, cette technique est tombée dans l'oubli, ou n'a pas été poursuivie, et on retrouve la chauffe de la pierre au Solutréen, qui est une période beaucoup plus récente, du Paléolithique supérieur.
Allez, on passe aux questions, Sophie de Bonne. Ah, mais justement, c'est peut-être une conclusion à notre histoire. C'est la question de Ludovic qui demande, est-ce qu'on peut dire que l'âge du feu se termine à un moment ou à un autre ?
Elle continue et elle ne fait que s'amplifier, se développer. On voit avec l'invention de la terre cuite, l'invention de la poterie, après l'invention de la métallurgie, les arts du feu donc. Et après, si on continue à regarder l'évolution technique, le charbon, toutes les transports, les trains, les bateaux, tout ça a fonctionné jusqu'au 19e siècle avec le feu. Et encore aujourd'hui, la sidérurgie, c'est basé
donc,
sur le feu.
L'ère du feu n'est pas totalement
terminée. Moi, je dirais qu'en fait, on est rentré dans l'ère du feu, on n'en est pas sorti. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la vie quotidienne, c'est moins important. Mm-hmm. Et surtout que maintenant, on a plus ou moins interdit les cheminées ouvertes. Maintenant, on a des inserts, donc c'est un peu moins...
Ouais, mais c'est toujours la flamme, quand
mais
même.
Mais c'est toujours la flamme, c'est toujours le feu.
Marie demande, est-ce que les sociétés préhistoriques utilisaient le feu pour se protéger des prédateurs ?
Alors, on peut supposer que oui, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup des prédateurs, mine de rien.
Oui, puis pas des petits.
Pas des petits. Il y avait les
ours,
des cavernes,
les lions, les tigres.
Il y avait les hyènes, il y avait les loups, il y avait les ours aussi, les ours des cavernes. Donc, on peut supposer que ça pouvait servir aussi à ça. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement.
Donc, merci à Marie pour sa question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, demande Gaëlle, sur le site préhistorique de Ménez-Drégan, en Bretagne ?
Ah, sur le site de Ménez-Drégan, c'est un site, c'est une grotte donc en bordure de mer dans le Finistère, qui a livré une occupation très longue, d'abord donc autour de 465 000 ans, le niveau les plus anciens. Ensuite, d'après mon souvenir, ça a été abandonné et ça a été réoccupé à partir de 350 000 ans à peu près, jusqu'à 200 000. Donc on doit avoir quelque chose comme 16 niveaux d'occupation. Toujours au même endroit, donc dans cette entrée de grotte.
Ça se visite aujourd'hui ? On peut le
Le site a été rebouché, il n'y a plus rien à voir.
Céline demande si les volcans ont pu être une source de feu pour les humains préhistoriques. Tiens, bonne question, ça aussi.
Bonne question, mais j'aurais du mal à y répondre.
Parce que là, pour le coup, il y avait de quoi faire sous la main. Mais
c'est ça, il faut quand même y aller, monter en haut du volcan ou récupérer dans les fumerolles. On n'a pas d'indice pour le dire. L'hypothèse, quand même, ce sont les incendies naturels liés à la foudre.
Allez, petit message vocal pour finir.
Bonjour Pierre à Limoges. Voilà, j'aurais une question par rapport à l'histoire du feu pour l'humanité. Il a été indiqué que le feu avait été utilisé pour cuire des aliments, mais rien de spécifique par rapport à la viande cuite. Est-ce que cela aurait pu jouer pour l'évolution de l'humanité vers l'Homo sapiens en cuisant notamment de la viande ? Merci. Au revoir.
Merci Pierre. 10 secondes, Sophie Daubonne, pour lui répondre.
Oui, je pensais avoir plus ou moins répondu tout à l'heure, mais effectivement, oui, c'est une hypothèse que certains chercheurs avancent, que ça a favorisé l'évolution. Ça a favorisé l'évolution en permettant l'assimilation des protéines et l'élimination des parasitoses.
Merci en tout cas d'être venu nous éclairer avec votre torche. Sophie Daubonne, je renvoie sur deux ouvrages. Le précédent qui s'appelle Une journée au temps de la préhistoire, c'est aux éditions Erol. Et le prochain qui va sortir le 15 avril, donc c'est très bientôt, aux éditions du Nouveau Monde, La vie quotidienne durant la préhistoire, 40 000, 10 000 ans avant notre ère. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Terre au Carré. Merci beaucoup à Éléonore Thévenot qui a préparé ce dossier, Fabrice Desmas à la technique, Lucie Sarfati à la programmation de la Terre au Carré et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.